Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié chez Erol, 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir est un guide pratique de prise de parole et de persuasion signé par Victor Ferry, chercheur, enseignant et formateur en rhétorique. Le livre ne traite pas la rhétorique comme une simple collection de figures de style, ni comme une arme réservée aux responsables politiques. Il la présente comme un travail de conception clarifiée, une conviction, organiser des arguments, donner une forme sensible aux propos et orienter un auditoire vers une décision ou une action. Son parcours en 12 leçons relie des pratiques issues de la tradition antique à des apports contemporains sur la psychologie de la persuasion. Les leçons sont regroupées autour de 3 mouvements: affûter la pensée, déployer un style, puis contrôler son ascension. Ferry insiste autant sur les exercices que sur les principes. Le lecteur est donc invité à développer souplesse intellectuelle, sens de la structure, intelligence des émotions, capacité narrative et cohérence éthique. L'objectif est moins de réciter une technique que de construire une parole personnelle, intelligible et influente. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, transformer une conviction en discours orienté vers le mouvement. Le point de départ du livre est une définition fonctionnelle de la rhétorique. Elle sert à mettre des idées en discours afin de mettre un public en mouvement. Cette formule déplace le problème de la simple transmission d'informations. Une présentation peut être exacte, documentée et utile sans modifier ce que son auditoire comprend, ressent ou choisit de faire. Pour Ferry, un orateur doit donc déterminer ce que sa parole cherche à rendre possible, faire reconnaître la valeur d'un projet, défendre une position contestée, obtenir une adhésion ou susciter une initiative. Cette orientation impose un travail préalable sur les convictions du locuteur et sur les attentes du public. Le manifeste, abordé parmi les fondations du parcours, illustre cette nécessité de formuler ce que l'on défend et les raisons pour lesquelles cela compte. Il ne s'agit pas de réduire la parole à un slogan, mais de lui donner une colonne vertébrale. Une conviction explicite facilite ensuite le choix des arguments, des exemples et du ton. Cette conception distingue également l'influence de la manipulation. Une parole durable ne dépend pas seulement de procédés efficaces. Elle suppose que le locuteur puisse assumer publiquement le sens de son message. La rhétorique devient ainsi une discipline de mise en forme et de mise en responsabilité des idées. Deuxièmement, assouplir la pensée grâce aux exercices de controverse et de changement de point de vue, Ferry accorde une place importante à la gymnastique intellectuelle, car une parole persuasive doit résister aux objections plutôt que suivre une ligne unique et fragile. Le dissuasologois, exercice hérité de la Grèce antique, consiste à défendre une position puis sa position opposée avec le plus de force possible. Son intérêt ne réside pas dans le relativisme systématique. Il oblige à repérer les présupposés de son propre raisonnement, à anticiper les arguments adverses et à distinguer les raisons solides des habitudes de pensée. Le lecteur apprend ainsi à préparer une réponse avant que la contestation ne survienne. La prosopopée propose un autre déplacement, produire un discours depuis le point de vue d'une autre personne ou même d'une entité qui ne parle pas. Cet exercice développe une compréhension plus précise des intérêts, des craintes et du vocabulaire de ceux auxquels un discours s'adresse. Enfin, l'éloge paradoxal demande de défendre ce qui paraît spontanément indéfendable ou dévalorisé. Il entraîne à trouver des angles inattendus sans renoncer à la rigueur. Ensemble, ces pratiques réduisent les formules toutes faites et les oppositions simplistes. Elles sont particulièrement utiles lors de débats, de négociations et de prises de parole professionnelles, où la capacité à reconnaître une objection légitime peut renforcer, plutôt qu'affaiblir, la crédibilité de l'argumentation. Troisièmement, structurer puis montrer pour rendre les arguments mémorables. Le livre rappelle que la force d'une idée dépend aussi de son architecture. Structurer son propos permet de guider l'attention et d'éviter que l'auditoire doive reconstruire seul le fil logique. Une intervention gagne en clarté lorsque son enjeu, sa thèse, ses raisons et sa progression deviennent perceptibles. Ferry ne réduit toutefois pas cette structure à un plan scolaire. Son approche vise une parole qui avance, crée des attentes et donne au public des repères pour évaluer ce qui est dit. La leçon invitant à montrer avant de dire complète ce travail. Un argument purement abstrait peut être compris sans être retenu. Une scène, une image précise, un exemple concret ou une opposition visible permettent au public de saisir plus directement les conséquences d'une idée. Montrer ne signifie pas abandonner la démonstration au profit de le fait. Cela signifie donner une expérience mentale à ce qui serait autrement une généralité. Cette articulation entre logique et incarnation aide notamment à expliquer un savoir technique, à présenter un projet ou à plaider une cause. Elle évite deux écueils fréquents, l'accumulation de données sans direction et le récit séduisant sans démonstration. La structure donne une fonction à chaque élément. Les éléments concrets donnent une présence aux raisons avancées. Le discours peut alors être suivi, discuté et mémorisé avec davantage de précision. Quatrièmement, passer de l'information au récit sans confondre narration et argumentation, la place donnée à l'écriture de son histoire indique que Ferry considère la narration comme un levier central de la parole publique. Un récit organise des faits dans le temps, fait apparaître des obstacles, des choix et des transformations. Il offre ainsi au public une manière de comprendre pourquoi une situation mérite attention. Cette ressource est utile pour un entrepreneur, un spécialiste, un responsable associatif ou toute personne qui doit faire percevoir la portée d'un projet au-delà de ses caractéristiques techniques. Raconter son parcours ou celui d'une idée ne consiste pourtant pas à se mettre en scène gratuitement. Le récit doit servir une thèse et éclairer un enjeu partagé. Il devient convaincant lorsque l'expérience particulière permet de rendre visible un problème général, une difficulté concrète ou une possibilité de changement. Le livre distingue par ailleurs convaincre et persuader. Convaincre renvoie principalement aux raisons que le public peut examiner. Persuader mobilise aussi la sensibilité, les représentations et les émotions qui participent effectivement aux décisions. Cette distinction empêche de croire qu'une preuve suffit toujours à produire une adhésion. Elle empêche aussi de croire que l'émotion dispense de preuves. Une narration bien employée relie ces deux dimensions, elle rend les conséquences humaines d'une argumentation perceptible, tandis que l'argumentation préserve la cohérence et la légitimité du discours. En dernier lieu, faire des émotions et de l'éthique les conditions d'une influence soutenable. Ferry traite les émotions comme des éléments constitutifs de la décision et non comme des perturbations à éliminer du discours. La peur, l'espoir, l'indignation, la confiance ou le désir ne produisent pas les mêmes dispositions à écouter et à agir. Le travail rhétorique consiste donc à identifier l'état émotionnel déjà présent chez le public, puis à déterminer quelle émotion est cohérente avec le but poursuivi. Cette attention demande de la mesure. Une émotion artificiellement amplifiée peut attirer l'attention à court terme tout en détruisant la confiance. Le livre place cette question dans un cadre éthique plus large. Il invite le lecteur à choisir un principe directeur et à agir de façon suivie avec celui-ci. Parmi les repères évoqués figurent notamment l'égalitarisme, le libéralisme, l'utilitarisme, l'idéalisme et la responsabilité. Ces cadres ne sont pas présentés comme des recettes automatiques, car chacun comporte des limites. Leur utilité est de contraindre la décision et la parole à une cohérence vérifiable. Une personne qui assume régulièrement les conséquences de ses principes peut acquérir une autorité morale plus solide qu'une personne seulement habile à parler. Cette articulation entre émotion et éthique constitue une limite importante à une vision purement tactique de la persuasion. Prendre les commandes signifie alors maîtriser les effets de sa parole, mais aussi répondre du type de relation qu'elle établit avec le public. En conclusion, ce livre s'adresse aux personnes qui doivent défendre une idée dans un cadre professionnel, associatif, universitaire ou public, mais aussi à celles qui souhaitent analyser plus lucidement les discours qui les entourent. Il sera particulièrement utile aux lecteurs qui cherchent des exercices pour sortir d'une parole trop informative, trop rigide ou trop abstraite. Les pratiques de controverse, de changement de perspective et de récit fournissent des moyens concrets pour préparer un débat, une présentation, une négociation ou une intervention orale. Le bénéfice intellectuel est tout aussi net. Le lecteur est invité à examiner ses convictions, les objections qu'elles rencontrent et les effets émotionnels de leur formulation. Par rapport à des manuels centrés sur les seules techniques de présentation, l'ouvrage se distingue par son ambition plus large. Il relie la construction de l'argument, le style, la narration, les émotions et la cohérence morale. Par rapport aux histoires générales de la rhétorique, il privilégie la mise en pratique, tout en conservant un lien explicite avec les exercices antiques et la recherche contemporaine sur la persuasion. Son intérêt principal réside donc dans cet équilibre entre tradition, entraînement et réflexion éthique. Il ne promet pas une formule universelle pour influence autrui. Il propose plutôt un cadre de travail pour concevoir une parole plus structurée, plus incarnée et plus responsable. Cette orientation en fait un guide pertinent pour développer une influence qui ne repose pas uniquement sur le fait immédiat. Si vous souhaitez soutenir Victor Ferry, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!